Hello à tous, vous écoutez Bien-être étudiant On Air, le podcast de bien-être qui parle des différentes problématiques de la vie étudiante. Nous sommes les étudiants relais santé de l'Université de Bordeaux et nous venons chaque mois vous parler de la santé mentale étudiante accompagnée d'un professionnel de santé. Chaque podcast est réalisé dans une atmosphère de bienveillance et de respect afin de vous accompagner au mieux dans un format décontracté mais toujours informatif. Allez, c'est parti!
Lors de ces podcasts, nous allons traiter des sujets pouvant être sensibles. Si vous pensez que cela peut vous heurter ou vous faire mal, préservez-vous et rejoignez-nous plutôt sur un prochain podcast. Si vous ne vous sentez pas bien ou que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé.
Salut Tatiana.
Salut Pauline.
Comment vas-tu?
Bouf, j'hésite entre te dire que ça va ou que ça va pas du tout.
Et pourquoi ça?
Bon, c'est un moment difficile. C'est la fin de mon master. Je recherche du travail pour la suite. Un logement, parce que je ne peux pas vivre dans Saint-Crous toute ma vie après les études. Donc, beaucoup de situations nouvelles dans ma vie et je dois t'avouer que je suis assez anxieuse.
Bah écoute, moi ça va plutôt bien. Je suis confiante pour les examens. Mais ça va, t'arrives à gérer quand même?
Mais je suis contente pour toi, mais oui, moi de mon côté, j'arrive à tenir un équilibre, marcher tous les jours, manger équilibré, essayer de bien dormir. J'ai fait par le passé des crises de panique, donc j'essaye de maintenir un équilibre pour pas aggraver la chose, quoi. Mais sinon, oui, je communique avec mon entourage, j'essaye de demander de l'aide si ça va pas, et puis on fait avec.
J'ai déjà entendu parler de ça, t'es pas la première à m'en parler et beaucoup d'étudiants le vivent et c'est différent du stress je pense. Tu sais le stress, le petit stress qu'on vit avant les examens, là on parle vraiment d'anxiété.
Oui exactement et puis surtout après la crise sanitaire on a vu qu'il y a eu une multiplication des cas sans arriver dans les crises de panique, il y a eu une augmentation de l'anxiété chez les étudiants et du coup c'est pour ça qu'on a décidé de faire ces podcasts.
Mais du coup, qu'est-ce que l'anxiété?
Alors, l'anxiété, c'est une réaction des peurs qui se déclenche face à un élément qui peut être dangereux pour nous. Du coup, c'est un mécanisme complètement normal, chimique, mais qui peut devenir problématique si c'est trop intense et envahissant au point de perturber notre quotidien.
Oui, par exemple, l'anxiété s'installe et même quand les choses vont bien, on a toujours la peur. Quand elle devient une préoccupation constante et qu'elle nous empêche d'avancer dans nos projets de vie, ça devient vraiment un trouble.
Oui, et pour échanger sur ces thèmes, nous accueillons aujourd'hui à Pauline Garcia, psychologue à l'espace santé étudiant.
Bonjour Pauline, merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. Est-ce que tu as des précisions à ajouter par rapport à cette brève introduction qu'on vient de faire?
Bonjour à tous déjà, et puis merci de m'avoir convié pour le podcast, c'est très sympa. Je pense que déjà vous avez donné une bonne définition de l'anxiété. Il faut bien distinguer l'anxiété, le stress, l'angoisse, c'est des concepts qui sont qu'on a tendance à confondre et qui peuvent se recouper sur certains points, mais se distinguer sur d'autres. Et de tout ça, il faut absolument pouvoir distinguer les troubles anxieux qui sont des troubles psychiques en soi, qui sont déterminés par des critères précis et qui ne sont pas à confondre avec la gestion de l'anxiété, du stress ou de l'angoisse que tout un chacun peut avoir au quotidien.
On dit souvent qu'on est stressé, angoissé, anxieux, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Est-ce que tu peux nous distinguer un petit peu ces trois notions?
Alors, pour les distinguer, c'est vrai que même au niveau des auteurs, on n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres. Le stress, c'est une expérience qu'on vit tout un chacun à travers notre corps et à travers notre esprit. L'anxiété, ça va être quelque chose de beaucoup plus majeur qui va prendre encore plus de place dans notre quotidien. Le stress va pas forcément durer, alors que l'anxiété, elle, va avoir tendance à durer plus longtemps. Et l'angoisse va être encore plus générale, ça va être un fond, une personne, un fond latent qui va être dans un fonctionnement d'une personne. Donc, faut arriver à distinguer, mais le plus important, c'est de distinguer plutôt l'anxiété et le stress. En soi, c'est le plus important.
On parle peut-être pour le stress d'un sentiment d'insécurité, l'anxiété un sentiment de peur et l'angoisse un sentiment d'effondrement. Est-ce que c'est une bonne manière de
Oui, après, il y a d'autres critères aussi qui permettent de les distinguer. C'est vraiment sur la temporalité, c'est aussi sur l'intensité du sentiment, parce qu'en soi, on part de la même émotion, à partir de l'émotion de peur, qui va être plus ou moins intense et plus ou moins durable.
Et au niveau des symptômes, comment on peut savoir si on a de l'anxiété? Quels sont les signes qui apparaissent?
Alors vraiment, pour savoir si on a de l'anxiété, déjà, généralement, la personne va le ressentir à travers son corps, parce que sur les symptômes anxieux, il va y avoir vraiment une expérience de modification à la fois corporelle, à la fois du comportement et de la pensée des cognitions. Au niveau des symptômes corporels, ça va passer par différents domaines. Ça va être tous les symptômes en lien avec notre rythme cardiaque, avec notre rythme respiratoire. Il va y avoir aussi toute la sphère au niveau gastrique, au niveau intestinal, qui peut être affecté aussi par des symptômes comme éventuellement des douleurs à l'estomac, des douleurs au niveau de l'abdomen de façon générale, voire même des troubles comme la nausée, etc. Il va y avoir tout un tas de modifications qui se font aussi dans l'ensemble du corps, avec des tremblements, avec des douleurs un petit peu diffuses. Parfois, c'est des migraines, parfois, c'est des douleurs, notamment dans le haut du dos. Donc, il y a tout un tas de modifications corporelles. Les modifications du comportement, ça va passer par l'évitement de nombreuses situations. Ça peut passer aussi par le repli sur soi, par l'isolement qu'on peut avoir avec notre entourage pour éviter des situations qui peuvent nous mettre mal à l'aise. Au niveau là de la cognition, de la pensée, ça va être principalement le fait d'avoir des craintes, des inquiétudes, le fait d'anticiper aussi énormément de situations comme étant potentiellement négatives, sans pour autant arriver à avoir le positif ou le neutre. Il va y avoir vraiment un biais au niveau cognitif qui entraîne en fait une modification de la perception des choses, et on va voir les choses de façon beaucoup plus négative pour le futur notamment.
Et en revenant sur ces symptômes que tu viens de citer, il y a quelque chose qui me questionne. Comment prendre conscience du fait qu'on a bien de l'anxiété ? Parce que même si on s'y reconnaît dans ces symptômes, souvent on a tendance à dire « oui, mais c'est pas si grave » ou « peut-être que je suis un peu stressée, mais c'est tout » ou alors que c'est normal. Et du coup, même si on rentre bien dans ces définitions, on n'arrive pas à admettre qu'on est en train de rentrer dans un trouble anxieux. Du coup, est-ce qu'il y a peut-être un peu plus d'informations, de l'aide pour nous faire du bien ?
En fait, on peut tout à fait avoir des difficultés au niveau du stress, au niveau de l'anxiété, sans pour autant développer un trouble anxieux en soi. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de trouble anxieux qu'on n'est pas légitime derrière à pouvoir consulter un professionnel. Vous avez tout un tas de professionnels qui proposent des ateliers de gestion du stress, de gestion de l'anxiété, sans pour autant qu'il y ait forcément de diagnostic à poser, puisque le diagnostic ne serait pas posable dans les conditions de présentation des symptômes. Alors que vous avez aussi d'autres profils, d'autres personnes qui, elles, présentent des troubles anxieux. Les troubles anxieux, ils vont se distinguer de l'anxiété ou du stress à partir de trois grands critères. En fait, vous allez avoir une temporalité qui va durer, donc vraiment, c'est des symptômes qui perdurent dans le temps. C'est des symptômes qui vont envahir la vie au point de rendre le fonctionnement habituel de la personne compliqué, voire impossible. Et en plus de ça, qui vont avoir un impact majeur sur la pensée, sur le corps, sur le comportement. Et ça va avoir des conséquences sur différentes sphères. Donc ça peut avoir des conséquences sur la sphère professionnelle, sur la sphère universitaire, scolaire, sur la vie privée, sur les relations humaines, sur la santé, etc. Donc c'est vraiment ces points de la durée, de l'impact aussi que ça peut avoir sur le fonctionnement ordinaire et les modifications vraiment majeures qu'il va y avoir au niveau de la pensée, au niveau du comportement et du corps. C'est comme ça qu'on va vraiment distinguer ce qui est de l'ordre du trouble anxieux et de l'anxiété. On peut vivre de l'anxiété au quotidien sans forcément avoir un trouble anxieux.
Ok. Oui, mis à part l'effet qu'il y a une distinction entre le trouble anxieux et l'anxiété, on a vu lors de la préparation de ces podcasts qu'il y a toute une famille de troubles anxieux. Et du coup, on s'est questionné sur quels sont les troubles anxieux les plus communs chez les étudiants. Et aussi, pour répondre aux questions qui ont été posées sur Instagram par les étudiants, on voulait savoir à quel âge ça apparaît, à peu près l'anxiété, et à quoi c'est lié.
Au niveau déjà des troubles les plus représentés dans la population des étudiants, il y a de nombreux tags, les troubles anxieux généralisés. Donc là, ça va vraiment être une anxiété qui va se généraliser à différents domaines, à différentes situations, la plupart des situations qui sont vécues. Donc ça peut être à la fois les relations, de l'anxiété sociale du coup, ça peut aussi être de l'anxiété sur le domaine de la santé, sur la réussite, donc de l'anxiété de performance. Et ça va généraliser vraiment à tout un tas de choses, voire l'ensemble des situations auxquels l'individu pourrait se confronter. Donc ça va être principalement le TAG, le trouble anxieux généralisé. Il va y avoir dans la population des étudiants aussi pas mal d'anxiété autour des troubles paniques. Le trouble panique, ça va être une répétition d'attaques de panique. Donc tout à l'heure, tu parlais de crise de panique. Oui. On va vraiment parler d'attaque de panique. Donc c'est un événement spécifique où l'anxiété va vraiment être à son apogée avec tout un tas de symptômes au niveau corporel, au niveau cognitif, au niveau aussi des émotions qui vont s'associer à une forme de perte de contact avec notre réalité, avec notre identité, qui peut aller jusqu'à la certitude absolue qu'on est en train de mourir, de devenir fou ou de changer totalement de comportement. Donc là, le trouble panique, ça va vraiment être quelque chose qui est très régulier dans la population étudiante avec le TAG. Je pense que c'est les deux plus représentés à l'heure actuelle. Et il y a aussi, c'est vrai quand même, tout un tas de phobies plus spécifiques, mais qu'on va moins observer dans la population étudiante. Quoique, chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais l'anxiété, le trouble de l'anxiété sociale, le TAS, qui est aussi très présent puisque c'est durant la vie étudiante qu'on est fortement confronté à des situations où on doit s'exposer à d'autres individus. Donc on doit prendre la parole lors de différents oraux, ou on doit éventuellement travailler en public à la bibliothèque universitaire. Et là, le trouble anxieux au niveau de l'anxiété sociale va pouvoir se déclencher, ou du moins être plus bruyant, et du coup, l'individu peut en prendre conscience à ce moment-là. Oui. Donc TAG, TAS et trouble panique.
C'est vrai que c'est des troubles qu'on a un petit peu l'habitude de voir autour de nous. Personnellement, les crises de panique, c'est un truc qui a été récurrent dans ma vie pendant au moins une année, surtout après la crise sanitaire. Mais en parlant avec les autres, avec mes copains, mes collègues de fac, je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas la seule. Enfin, c'est un truc qu'on voit souvent. Pareil, après avoir été enfermée pendant 2 mois, on a été enfermée 2 mois, mais c'était compliqué de sortir, de faire une soirée, de voir d'autres personnes. Sans aller trop loin, il n'y a pas très longtemps, je voulais réunir des amis chez moi et une copine voulait venir nous voir. Seulement, elle arrêtait, elle était dans les trains, elle devait arriver à Nantes et elle s'est arrêtée à Paris parce qu'elle avait trop peur de nous retrouver en fait. Elle a fait une crise, du coup elle s'est arrêtée dans les trains dans une arrêt qui n'était pas la sienne parce qu'elle ne pouvait pas faire face à ça, à ces retrouvailles.
Donc, oui, donc le Covid a laissé des traces, mais aussi moi j'ai fait une prépa ou alors des amis qui étaient en première année de PACES. On voit qu'après ces années-là, comme si on avait contenu toute l'anxiété qu'on a vécue, elle ressort sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et c'est vraiment cette idée de subir la situation, alors que c'est quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté avant. Il y a un témoignage de François qu'on va écouter tout à l'heure, mais qui met vraiment ça en évidence. C'est tout d'un coup, paf, on vit quelque chose et on ne comprend pas. Donc c'est bien d'en parler, je pense, aujourd'hui.
Mais il va y avoir différents déclencheurs. L'anxiété, en fait, elle peut prendre de plus en plus d'ampleur après un événement de vie spécifique. Évidemment, les prépas, évidemment, une thèse ou éventuellement la PACES ou d'autres moments où l'individu va se focaliser sur une tâche et en demander beaucoup à son corps, à son esprit. Ça va être un des éléments déclencheurs qui peut permettre une décompensation anxieuse, donc un changement brutal dans le comportement, dans le fonctionnement habituel de la personne, qui va vraiment faire flamber l'anxiété. Il va y avoir aussi beaucoup de décompensations anxieuses avec la prise de substances. C'est quelque chose qui est très très régulier, notamment dans la population étudiante, ou après consommation, pas forcément une consommation énorme, hein, mais ne serait-ce que sur une première prise de différentes substances, le cannabis ou autre, il peut y avoir des personnes qui vont changer radicalement de comportement et qui vont développer des troubles anxieux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit très très régulièrement. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça, notamment chez les étudiants qui ont tendance à avoir ce type d'expérience. Et pour répondre à la question que tu me posais tout à l'heure, Tatiana, aussi par rapport à l'apparition des premiers symptômes, c'est vrai que les symptômes anxieux, ils peuvent apparaître à tout moment de la vie, mais c'est souvent au moment de l'émancipation, donc au moment où les enfants, adolescents, quittent le domicile familial et vont développer leur propre vie, que là, les troubles anxieux peuvent vraiment se révéler, puisque l'individu qui quitte le milieu familial, il va se confronter à tout un tas de responsabilités, tout un tas de pressions qui sont nouvelles pour lui. Évidemment, c'est un moment qui est propice au développement des troubles.
Et du coup, on a vu qu'est-ce que l'anxiété, qu'elle peut prendre de différentes formes. Et on a vu un petit peu les symptômes caractéristiques. Maintenant, on voudrait inviter à cette conversation Inès, qui est notre témoin du jour.
Bonjour Inès, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter quel est ton rapport avec l'anxiété?
Bonjour, moi c'est Inès. J'étais très anxieuse pendant 2 ans, surtout quand je suis arrivée à la licence ici à Bordeaux. J'ai passé 2 ans très durs où j'avais beaucoup d'anxiété par rapport au cours. Énormément, je me mettais beaucoup de pression tout le temps. Tout le temps, j'avais un travail étudiant, donc j'avais jamais de temps pour moi et je prenais beaucoup d'anxiété, mais je la réalisais pas. Et pendant le Covid, j'ai eu la chance de partir à l'étranger pendant 1 an. Et j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça, toute cette anxiété. Et j'ai réussi à calmer beaucoup de choses. Et c'est quand je suis retournée en France, ici, en licence 3, du coup, à Lyon, où je suis complètement partie de mes amis, de ma famille, je suis partie loin, que j'ai réalisé que cette anxiété, elle pouvait revenir petit à petit. Mais avec tout ce que j'ai appris pendant 1 an, j'ai réussi à la gérer. Et j'ai beaucoup plus ressenti, par contre, l'anxiété des personnes autour, le stress. Et c'était plus difficile à gérer, au final, le stress des gens autour que le mien, parce que ça prenait beaucoup de place. Et du coup, voilà.
Concrètement, quelles sont les activités que tu fais pour te sentir mieux, pour te ressourcer quand tu es au milieu d'une période plus anxieuse?
Quand je suis dans une période plus anxieuse, déjà j'essaye de me rendre compte que je suis anxieuse parce que c'est pas toujours facile. Souvent on se laisse déborder et on s'en rend compte après quand ça prend des grosses proportions. Du coup j'essaye d'être assez réelle sur ce que je ressens sur le moment. l'accepter. Puis une fois que je l'ai accepté, j'essaye de faire des choses qui me font du bien, qui me plaisent. Aussi, je me dis par exemple, oh, j'ai une journée difficile. Bon, bah, ce soir, je vais aller boire un thé parce que j'ai envie d'un thé. J'ai envie d'aller manger une chocolatine ou j'ai envie de faire du sport. J'essaye de me dire que quand j'ai vécu un moment anxieux, difficile, stressant, bah, je me dis qu'après, je crée un moment plus agréable en fait.
Tout à l'heure, tu disais que tu ressens beaucoup le stress des autres, l'anxiété des autres. Et comment toi, en tant que personne extérieure, ou alors toi-même en tant qu'individu qui vit l'anxiété, comment est-ce que les personnes peuvent aider ceux qui se sentent mal comme ça, qui subissent cette anxiété? Comment ton entourage peut t'aider?
Je pense que le rapport à l'anxiété est très différent pour tout le monde. Mais quelqu'un de très anxieux, il faut laisser parler la personne. Parce que contrer l'anxiété de la personne, c'est pas une solution, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin par exemple, j'ai plein d'amis, quand je leur évoque mon anxiété, ils me disent « Non, mais tu sais, il peut se passer ça, il peut se passer ça. » Comme par exemple « Ah, je suis très stressée parce que j'ai eu les masters, je sais pas si je vais être prise ou quoi que ce soit. » Ben, on me répond « Non, mais ça va, t'as des bonnes notes. » Mais
en fait, c'est ça, on coupe la vague, quoi.
Et je pense que c'est pas une solution, je pense qu'il faut juste savoir écouter le stress de la personne qui nous entoure et l'entendre. Et être OK avec ça, laisser juste les personnes l'évoquer.
Oui, parce que c'est vrai que l'anxiété, elle est fatigante. Et en plus, le fait d'avoir une personne devant toi qui ne reçoit pas ton anxiété, qui ne reçoit pas ce que tu es en train de partager, c'est aussi dur. Et ça se rajoute aux choses qui te rendent anxieux, quoi. Ça rajoute encore une couche à l'anxiété.
Mais de façon générale, en fait, il va y avoir une énorme banalisation de l'anxiété et surtout des troubles anxieux dans la population générale. Et ça n'a jamais aidé personne de dire bah, « mets-toi un petit coup de pied aux fesses, ça ira mieux demain ». C'est pas du tout ça qui est attendu par la personne qui subit son anxiété. Je pense que oui, effectivement, c'est nécessaire d'avoir un espace de parole, un espace où on va pouvoir se libérer de nos inquiétudes. Derrière, après, pouvoir aussi apprendre à demander aussi ce qu'on attend aux autres, parce qu'on leur partage notre anxiété, c'est déjà un très bon point, effectivement, parce que là, on va avoir un espace pour se libérer de ça. Mais derrière, pouvoir aussi formuler des demandes aux gens qui nous entourent et de leur dire bah, « là, j'ai juste besoin de réconfort émotionnel, là, j'ai juste besoin d'une écoute » ou « là, j'ai peut-être besoin aussi de conseils pour apprendre à gérer, de conseils pour apprendre à rationaliser ». Ou pas, en fait. Ça dépend vraiment des individus. Donc, pour les personnes anxieuses, c'est important d'apprendre, en fait, à prendre conscience de ses limites, prendre conscience de ses besoins, et après, d'apprendre à les communiquer aux autres aussi.
Parce qu'il y a vraiment cette idée qu'il y en a qui... Bah, ils ne subissent pas leur anxiété. Ils ont une très bonne gestion du stress et de l'anxiété. Et du coup, c'est difficile pour eux, peut-être, de comprendre qu'on peut être submergé par ces émotions-là. Et donc, ces personnes-là ne vont pas forcément nous aider. Donc, exprimer le besoin clairement à l'autre, s'il y a confiance, on va dire, dans l'échange, c'est vrai que ça peut vraiment aider. Mais en tout cas, quand on a préparé ce podcast, on a vu que l'anxiété, elle peut naître de plein de choses et aussi de choses vécues pendant l'enfance, suite à des événements difficiles pour nous, comme par exemple faire face à une carence affective. Ça crée de l'insécurité et donc des peurs qui peuvent être responsables et déclencher des troubles anxieux. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Pauline, là-dessus?
Alors oui, en fait, au niveau de la petite enfance, il va y avoir vraiment l'élaboration d'un premier schéma. En fait, c'est vraiment une structure qu'après, on va avoir tendance à reproduire au cours de notre vie en fonction de la relation qu'on va avoir avec nos éducateurs, donc que ce soit les parents ou d'autres personnes, ce qu'on appelle les figures d'attachement. On va vraiment apprendre à rentrer en relation avec le monde, à rentrer en relation avec les autres et à rentrer en relation avec nous-mêmes et notamment la gestion de nos émotions. Ça va vraiment s'apprendre dans ces premières années de vie, après se perfectionner ou se moduler au cours de la vie. Et si on se retrouve face à des figures d'attachement, donc éventuellement des parents qui sont défaillants parce que instables eux-mêmes, parce que trop anxieux eux-mêmes, on va avoir des difficultés du coup à apprendre à gérer toutes ces émotions-là et à gérer notamment nos inquiétudes. Donc forcément, ça va nous laisser une forme de vulnérabilité pour l'avenir. Mais c'est tout à fait possible de songer par le biais d'une psychothérapie à avoir une expérience qu'on appelle correctrice, c'est apprendre de nouveau à rentrer en relation avec soi, avec le monde, avec les autres, ou aussi à travers des relations correctrices de notre entourage. Donc ça peut être avec un ou une partenaire, ça peut être avec des amis, etc. Ou même à travers différents exercices, différentes lectures, qu'on va apprendre autrement à gérer nos émotions et notamment le principe d'inquiétude.
Le principe d'inquiétude?
Oui, cette notion en fait de pouvoir anticiper de manière négative le futur avec le fameux « et si ?» Et si je fais cette action, il risque de m'arriver quelque chose.
Et donc passer plutôt dans des boucles positives, essayer de sortir du négatif. Bon, ça a l'air facile comme ça, mais...
ça va vraiment être un travail surtout sur l'intolérance par rapport à l'incertitude. Aussi, parfois l'anxiété, elle se base là-dessus. Elle se base sur cette intolérance à l'incertitude, notamment les troubles anxieux généralisés qui sont fondés sur ce concept-là.
Là, ça me fait penser directement à l'éco-anxiété. Je ne sais pas si on entend de plus en plus parler au niveau des étudiants, mais moi, je sais qu'une psychologue m'avait dit que c'était un des gros sujets de consultation. Et justement, c'est cette incertitude ou alors un avenir qui n'est pas si paisible et apaisé que ça. Et j'ai l'impression que ça touche beaucoup, beaucoup les jeunes.
À l'heure actuelle, c'est vrai qu'au niveau politique, au niveau écologique, il y a énormément d'incertitudes. Et ce qui va créer une énorme flambée de l'anxiété dans de nombreux individus, et notamment chez une population plus jeune qui n'a pas d'expérience de comparaison, et du coup qui a peut-être plus de difficultés à faire face à cette incertitude.
Petite anecdote. L'autre jour, j'étais dans les trains et il y a eu quelqu'un qui habite dans ma résidence qui était assez anxieux. Du coup, je me suis approchée, je lui ai demandé est-ce que ça va. Et c'était un garçon et il m'a dit non, je viens de voir un post sur Instagram qui dit que le 30% du territoire français est exposé aux inondations. Et bon, c'est un truc que je savais déjà, mais du coup, il était très sensueux parce qu'il disait « Si ça continue, ma maison va être inondée, mes parents ne vont pas pouvoir m'aider parce qu'ils vont devoir payer des frais de réparation de la maison. Et du coup, je ne pourrai pas continuer avec mes études si ça continue. Enfin, » Mais il était très, très mal. Je ne savais pas trop comment recevoir ça. En arrivant à la maison, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit « Oh mon Dieu, le pauvre, il ne va pas pouvoir continuer avec ses études parce que... » les changements climatiques, c'est vraiment un truc qui est très pressant.
Mais parce qu'on subit plus qu'autre chose, on subit et on ne peut pas contrôler et donc forcément on a peur. Est-ce que Inès, tu as déjà ressenti ça ou l'éco-anxiété, ça ne te parle pas du tout ?
Si, ça me parle énormément. J'ai notamment eu une option à la fac qui s'appelait la transition écologique et on parlait que de ça, de l'éco-anxiété. Et c'était super intéressant. Et j'ai pu faire des ateliers pour gérer cette partie-là. Et c'était super intéressant. On est parti à un moment donné au lac, à un lac, on avait campé, on avait pu parler de tout ça et un peu se reconnecter à la nature. C'était vraiment une prof qui était intéressante et du coup, j'ai été sensibilisée par rapport à ça, mais tout cet atelier m'a aussi aidée à prendre du recul face à cette chose.
Parce que là, il y a beaucoup de moyens pour faire prendre conscience aux gens, donc des fresques, du climat, etc. Mais au final, il n'y a pas beaucoup d'aide pour accueillir cette éco-anxiété et surtout savoir la gérer. Nous, on a eu encore... des choses pour nous sensibiliser, mais on a presque envie de dire, bon, c'est bon, on est sensibilisé maintenant, faisons en sorte d'avancer, parce qu'on est un peu bloqué, quoi. On est en inertie, parce qu'on s'enferme dans notre peur et on y reste, quoi.
Ben, on y reste, on ne voit pas les solutions, et du coup, c'est compliqué. Et puis, nous, ce qui était intéressant, par exemple, à mon cours, c'est qu'on disait si on était triste, en colère, enfin, on racontait tout, puis des fois, c'était la joie qu'il fallait évoquer, mais plein de choses, par exemple, nous, il y a eu plein de fois où c'est sorti l'usine de Blaye. Oui, c'est ça. La centrale, il y en a plein qui évoquaient vraiment une anxiété par rapport à celle-ci. Il y en a de la colère. Et on arrivait à mettre toutes nos émotions autour de ça et c'était vraiment intéressant.
Mais je pense, pour rajouter quand même quelque chose, qu'à ce niveau-là, il faut aussi apprendre à se préserver, que ce soit au niveau de la conscience écologique, au niveau des connaissances géopolitiques, etc. Pour des individus qui se sentent vulnérables, je pense que c'est important parfois aussi d'apprendre à se couper des informations. Et à se préserver aussi de potentiellement des mauvaises nouvelles.
Oui, ça c'est quelque chose que j'ai lu, c'est faut faire confiance à notre instinct. Et notre instinct va nous dire ce qui est bon pour nous ou pas. Et le problème c'est qu'on n'a pas l'habitude de l'écouter cet instinct-là. Et des choses qui peuvent nous ramener à cet instinct, à cette écoute, c'est des choses comme la musique, la danse, une expression... qui peut passer par le corps, mais aussi par l'esprit, des choses qui nous apaisent. Et quelque chose qui ne nous aide pas du tout, par contre, à écouter notre instinct, ça va être les écrans, les informations en continu, des choses comme ça.
Moi, j'ai eu cette problématique de pas gérer le fait de recevoir des informations tout le temps, notamment avec Instagram. Du coup, j'ai mis chacun de mes comptes, j'ai séparé en 5 et j'ai mis les trucs sur l'environnement, les trucs sur la politique et tout. Et du coup, et les trucs sur le bien-être. Et maintenant, je clique sur ce que j'ai envie de voir à tel moment. Comme ça ne m'impose pas parce qu'en fait, j'avais mon fil d'actualité toujours comme ça. Et j'en pouvais plus, j'en avais marre de voir. À des moments, j'étais pas prête politiquement, là, j'avais pas envie de recevoir ça. Ou même au niveau de l'environnement, j'avais pas envie de recevoir ça. Donc, j'ai séparé en 5 parties. Et maintenant, je suis en mode, ok, maintenant j'ai envie de voir ça, ok, là j'ai envie de regarder ça. Et du coup, c'est une petite technique à faire.
Ce que tu dis, c'est important et c'est intéressant. Mais ça va à l'encontre de ce qu'on nous apprend à l'université. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent qu'il faut être au jour de l'actualité, il faut que tu saches qu'est-ce qui se passe dans ton domaine. Et du coup, ça nous force un petit peu à être au jour.
Après, il y a tout un tas d'activités qui peuvent accompagner la gestion de l'anxiété, la gestion du stress. On en parlait tout à l'heure avec Inès et avec toi, Pauline, mais c'est vrai que je pense que l'une des priorités, c'est apprendre à identifier les différents signes corporels, les différentes émotions et nos besoins. Vraiment, l'identification de nos besoins à la fois au niveau de notre corps et de notre esprit. Ça devrait être une priorité, en fait, de savoir identifier nos besoins corporels et nos besoins émotionnels, et y compris relationnels d'ailleurs, parce que ça nous permettrait, comme tu le disais, Pauline, de nous mettre plus en relation avec cet instinct-là, parce que finalement, ça serait peut-être ça aussi. Cet instinct, c'est de savoir s'écouter, savoir écouter les différents signaux de notre corps et de notre esprit. Après, en dehors de ça, vous allez avoir tout un tas d'activités qui permettraient de nous ressourcer dans les moments où il y a vraiment une montée de l'anxiété. Il va y avoir des activités ressources très différentes selon les individus. Vous allez avoir des personnes qui vont plutôt se focaliser sur des activités de l'ordre de la relaxation, du bien-être. Donc ça peut passer par des choses assez traditionnelles comme le yoga, la méditation, etc. Mais pas que. Vous allez avoir d'autres personnes qui ont plutôt besoin, au contraire, de faire ressortir de l'énergie, donc de passer par quelque chose de beaucoup plus corporel, beaucoup plus actif. C'est la catharsis, en fait, c'est le fait de pouvoir vraiment s'exprimer par le corps. Donc ça peut être une activité assez cardio comme de la boxe, etc. Ça peut faire beaucoup de bien des individus. Coupler les deux, une activité plus relaxante et une activité plus vive, ça peut être très intéressant. Derrière, vous avez aussi tout un tas d'outils de gestion du stress qui vont un peu travailler à la fois sur la sphère psychologique que tu citais et la sphère corporelle. Donc il y a vraiment tout un tas de techniques au niveau respiratoire, au niveau vraiment de la visualisation qui existe. Et on pourra communiquer dessus à travers le compte, il n'y a pas de souci, et fournir même des liens, ça peut être intéressant. Et derrière, pour les individus qui continuent à avoir de l'anxiété, je pense que c'est important d'apprendre à gérer son temps et vraiment d'apprendre à planifier pour avoir des temps aussi de repos. Apprendre à pouvoir anticiper sur les différents stress qu'on peut avoir, notamment quand c'est de l'anxiété de performance pour les étudiants qui préparent des examens. Alors dans ce cas-là, éventuellement planifier avec quelque chose d'assez cadré en incluant des moments où ils vont pouvoir se ressourcer. Je trouve ça très important.
Pour revenir juste par rapport à la visualisation, moi j'avoue que tout ça, j'y croyais pas forcément au début, et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai vraiment eu besoin, c'était au moment du passage des concours. J'avais des réactions physiques, c'est-à-dire mes intestins ne tenaient jamais à chaque devoir tous les samedis matins, et j'étais malade, hein, clairement, physiquement. Je me suis dit, le jour des concours, si j'arrive comme ça, je vais perdre du temps, j'avais des sueurs froides, vraiment, je contrôlais rien du tout, alors que dans ma tête, j'avais l'impression que ça allait, mais je pense que tout ce que je retenais dans ma tête ressortait physiquement. Et en fait, je me suis dit, ah non, ça ne peut pas m'arriver le jour de mes concours. En plus, je suis somnambule, donc si en plus je ne dors pas à cause de l'anxiété, c'était fini. Et j'ai fait donc de la méditation le midi, ça me servait de pause. Et surtout, j'ai fait de la visualisation où je me voyais donc les pieds ancrés dans le sol, les mains sur la table, à respirer. Et je m'imaginais le jour du concours dans la salle, à prendre un temps pour moi, à me dire, ok, t'es bien là physiquement, t'es à cet endroit et ça va bien se passer. J'ai passé mes concours sans être malade, alors que ça faisait 2 ans que tous les samedis, j'étais dans un état pas possible. C'est impressionnant ce que notre cerveau peut faire sur notre corps. J'ai vraiment vécu un stress positif. J'ai pas été malade en une semaine. Et je trouve ça vraiment impressionnant, et c'est quelque chose qu'on peut tous faire chez nous.
Oui, bien sûr. Et puis après, il y a vraiment tout un tas aussi d'outils qui sont envisageables. Vous avez des personnes qui ne sont pas du tout sensibles à la méditation, à la visualisation. D'autres, ça va beaucoup plus passer par le corps qui va influencer l'esprit, et inversement pour d'autres personnes. Au niveau de la gestion de l'anxiété, vous avez aussi la cohérence cardiaque qui fonctionne très bien, qui se base en fait sur le principe de synchronisation du rythme cardiaque et du rythme respiratoire. Ça peut être en fait des exercices qui durent 5 minutes grand maximum, qui sont à intégrer au quotidien et qui vont nous apprendre à réguler notre rythme respiratoire, donc à réguler le rythme cardiaque. Et pour les personnes qui ne sont pas forcément sensibles à tous les outils autour de la méditation et de la visualisation, la cohérence cardiaque, ça peut être très très intéressant. Il y a même des applications, notamment Respirolax, qui existent et qui sont fortement utilisées dans la population étudiante, puisque c'est vrai que c'est des outils qui sont assez rapides et qui permettent de retourner un état de calme, de sérénité rapidement, alors qu'un exercice de visualisation, pour certains, ça n'a pas forcément parlé, ça peut être même angoissant pour certaines personnes et ça peut être assez long, notamment si on n'y adhère pas.
Après, à l'espace santé étudiant, il y a les ateliers gestion du stress où on propose aux étudiants des outils pour mieux appréhender son stress, mais c'est aussi où on fait un moment de pause, où on fait de la respiration, de la méditation, un petit peu de la visualisation. Et du coup, c'est accompagné, donc ça peut aider parce qu'au début, ça peut être difficile si on essaye de le faire toute seule à la maison.
Le but des ateliers de gestion du stress, c'est vraiment d'apprendre aux étudiants à développer une autonomie par rapport à cette gestion des émotions. Donc il va y avoir vraiment une approche psychocorporelle, donc qui va passer à la fois par les messages du corps et par les messages au niveau de la pensée. Et les collègues qui animent ces ateliers vraiment vont travailler avec différents outils. Donc même si, comme on l'a dit tout à l'heure, certains ne vous correspondent pas, vous trouverez forcément un outil qui vous aidera du coup à mieux gérer effectivement.
Je ne sais pas vous, mais après avoir parlé de tout ça, je me demande comment c'est pour une personne qui vit ses troubles anxieux tous les jours.
On a eu un témoignage de François, étudiant en troisième année en Sciences Po Bordeaux, qui nous a envoyé un enregistrement où il nous raconte son expérience avec un trouble anxieux généralisé.
Bonjour, je m'appelle François, je suis en troisième année d'études à Sciences Po. Mon expérience avec l'anxiété, elle est relativement récente. Parce que ça s'est manifesté il y a moins d'un an. D'abord, c'était de l'anxiété plutôt sociale. Donc, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de bruit, dans des situations seules où j'étais pas à l'aise. Donc, moi, c'était en Erasmus où j'ai découvert que c'était une ambiance qui ne me plaisait pas, où j'avais cette impression que ma tête me disait il faut que tu sortes absolument maintenant. C'est comme si je devais fuir. Et ça me l'a refait. Donc, après, quand j'étais en soirée, par exemple, je devais sortir. De façon un peu brusque, parce que je supportais plus le bruit, les sens un petit peu qui étaient un petit peu tous bouleversés. Et donc cette question d'urgence, d'être un peu bloqué dans une situation où je peux rien y faire. Et sinon, maintenant, ça me le fait dans plein de situations, mon anxiété. Notamment quand c'est souvent lié à des symptômes un peu de burn-out, c'est-à-dire quand j'ai beaucoup de travail, quand j'ai du mal à m'organiser, quand je suis pas en contrôle de tout ce qui se passe. Notamment quand il y a des tâches administratives, par exemple, et que c'est le bordel. J'ai l'impression, comme ça, de pas être en contrôle, de pas gérer, d'être complètement paniqué. Donc, ça se manifeste par mon esprit complètement désorganisé, je sais pas quoi faire. Par des sortes de spasmes aussi, quand je suis couché dans mon lit et que j'ai rien d'autre auquel penser. Voilà, des grosses crises de stress et je n'arrive plus à penser de façon rationnelle à mon organisation.
Ce qui est intéressant, c'est que là, François, il nous a partagé quand même des éléments qui sont de l'ordre de l'intimité. Donc déjà, je pense qu'on peut le remercier pour son témoignage. Par rapport à ce qu'il a vécu, lui, évidemment, l'Erasmus, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est aussi un moment où on va sortir en fait de son confort quotidien, on va sortir de son environnement habituel, donc on va perdre des repères. Et ce qui va pouvoir créer une insécurité ou réveiller une insécurité qui va nous mettre dans une sensation de vulnérabilité et du coup développer de plus en plus d'intolérance à l'incertitude, on le voit bien, hein, il en témoigne directement, et d'impression de danger, donc des inquiétudes par rapport à tout un tas d'éléments ou d'événements qu'il a pu expérimenter. Derrière, on voit qu'il va y avoir d'autant plus d'anxiété dans des situations différentes, donc son anxiété, elle s'est généralisée dans d'autres situations qu'il n'expérimentait pas avant. Et c'est aussi ça l'objet de l'anxiété, c'est que malheureusement, du fait de l'anxiété, on va avoir tendance à éviter de plus en plus de situations et derrière à les percevoir négativement. Donc des situations qu'on va éviter vont devenir des situations anxiogènes alors qu'avant elles ne l'étaient pas. Et c'est bien ça qui est problématique dans l'anxiété, c'est cette notion d'évitement. Plus on évite de se confronter à ce qu'on n'estime comme étant potentiellement dangereux alors que ça ne représente pas un danger rationnellement parlant, plus on va développer une anxiété qui va être intense et qui va derrière se généraliser de plus en plus.
Ça peut débuter par un événement traumatique, on parlait de la petite enfance, on parlait de l'éco-anxiété, mais il y a aussi ça, quelque chose qu'on vit à un instant T et qui au final va faire que, bah, par exemple, si on a vécu quelque chose de traumatisant dans un centre commercial, on ne va plus supporter d'aller dans les centres commerciaux parce que ça va créer de l'anxiété. Et parfois, ça peut même aller peut-être jusqu'à des crises de panique, des crises d'angoisse. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, peut-être
Ben là, en fait, on va parler vraiment... suite à un événement traumatique, un individu va pouvoir soit se rétablir spontanément et au contraire, étonnamment, en ressortir plus fort, parce que l'individu va développer ce qu'on appelle la résilience, donc vraiment cette capacité à rebondir, à s'adapter et au contraire à tirer en fait des ressources positives d'un événement qui a une valence initialement négative. Mais vous avez aussi des personnes qui derrière vont développer une forme de vulnérabilité après un événement qui a eu une valeur traumatique pour cette personne. Et la vulnérabilité, elle peut passer par le développement d'un trouble anxieux. Donc souvent, on se retrouve face au développement soit d'un trouble anxieux généralisé, soit de troubles paniques dont on parlait tout à l'heure, de l'agoraphobie, et ou d'ailleurs, parce que ça peut être le cumul des deux, le développement d'un trouble de stress post-traumatique qui va malheureusement laisser des traces à la personne dans son vécu si jamais il n'y a pas d'accompagnement thérapeutique pour essayer de faire évoluer l'individu.
On développe une peur de la peur. La peur de répéter l'expérience. Pauline, je voulais savoir si tu as des recommandations pour les personnes qui trouvent des personnes en crise de panique, de recommandations, comment aider une personne qui est en crise de panique ou dans une crise d'anxiété tout court.
Alors, on va vraiment essayer de distinguer justement là, les termes. On va vraiment parler d'attaque de panique et éventuellement de crise d'angoisse ou de crise d'anxiété. Donc l'attaque de panique, ça va vraiment être un état de crise du comportement avec, comme on l'a dit, un pic d'anxiété et cette idée de déconnexion avec soi, de déconnexion avec l'environnement, voire cette idée de devenir fou, de mourir éventuellement. Et ce qu'on appelle crise d'angoisse, de ce que j'en comprends, il n'y a pas vraiment de réalité médicale en fait de ce terme-là, mais de ce que j'en comprends dans l'utilisation du mot, ça va être principalement une montée d'anxiété pour les individus. Donc je ne veux pas du tout banaliser ces crises d'angoisse-là, parce que ça a quand même de fortes répercussions, mais ça se distingue vraiment de l'attaque de panique. De façon générale, pour intervenir et aider au mieux des personnes qui vivent une attaque de panique ou une crise d'angoisse, ça va être de pouvoir l'isoler, la mettre à l'abri des regards pour pouvoir la préserver et voir avec elle comment l'aider au mieux. La personne, elle est experte de son fonctionnement, donc ne pas hésiter à lui redonner une sensation de contrôle et à lui demander comment est-ce qu'on peut l'aider. Donc ça va passer éventuellement par l'aider à appliquer des petits exercices de gestion du stress, mais surtout pas rentrer dans une démarche où on va tenter de lui apprendre quoi que ce soit. Une personne qui fait une attaque de panique, comme on l'a dit, c'est comme une explosion un petit peu dans le cerveau. Et le cerveau, il n'est pas du tout en état d'apprentissage. Donc si on essaie de lui apprendre à respirer, à compter, etc., ça peut la mettre en échec et la faire paniquer en plus. Donc on essaie de la préserver de l'environnement au maximum, de la mettre dans un coin, dans un endroit où éventuellement il va y avoir pas mal de stimulation sensorielle pour qu'elle arrive à se reconnecter un petit peu à son environnement. Et on lui demande comment on peut l'aider au mieux.
On arrive à la fin de ce podcast. Merci Pauline de nous avoir rejoints et d'avoir répondu à nos questions. Et merci Inès et François d'avoir témoigné pour nous. Si vous voulez nous rejoindre pour un prochain podcast, abonnez-vous sur notre compte Instagram. Là, vous trouverez toute l'information.
Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui suivent nos podcasts sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à Bien-être étudiant en air sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts pour ne pas rater aucun épisode.
On vous rappelle que les professionnels de santé de l'espace santé étudiant à PESAC sont toujours disponibles pour vous recevoir et vous éclairer sur n'importe quelle problématique. Et quant à nous, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode.
À bientôt.